Alors, vous êtes bien sur Fréquence Mistral, figurez-vous, c'est dingue, c'est un scoop sur le 107.3, également sur internet, fréquencemistral.com, et vous allez sur l'onglet de Gap, et c'est le troisième jeudi du mois, comme je vous le disais tout à l'heure, il est l'heure de retrouver Claire Elisabeth pour son émission L'Instant Bien-être, qui fait sa rentrée, finalement. C'est vrai qu'on est le 19, on peut dire que la rentrée est déjà passée, pour les scolaires et compagnie, c'est déjà peut-être un peu loin pour nous, mais la rentrée radiophonique, elle existe aussi, puisque c'est les troisième jeudi du mois que vous pouvez retrouver Claire Elisabeth et on re-signe pour une nouvelle saison.
Absolument.
Voilà.
Avec grand plaisir.
La rentrée s'est bien passée pour toi?
Bah, la rentrée s'est plutôt bien passée, un peu sur les chapeaux de roue, mais ça va, on tient le rythme. Et c'est vrai que même si on est déjà le 19 septembre, c'est vrai que le mois de septembre est généralement la considération, la représentation de la rentrée. Donc on va dire qu'on est pleinement dans les clous, le temps qu'on prenne nos marques pour pouvoir dérouler tranquillement notre quotidien par la suite.
Et c'est vrai, justement, c'est la thématique de cette émission.
Absolument.
Pour ce mois, la rentrée ou l'occasion des bonnes résolutions. Et si vous vous engagez à tenir bon dans vos engagements.
Absolument.
Ben oui. C'est comme le nouvel an d'ailleurs.
Exactement.
On a combien d'engagements par an en fait?
Ça en fait beaucoup finalement, parce qu'on peut dire aussi que le mois de juin est souvent mai-juin, on va dire la période, c'est aussi une période de bonnes résolutions, puisque non mais je vais faire attention à ce que je mange, je vais me réconcilier avec mon image. Le premier de l'an, on a tendance aussi à se donner des résolutions à la rentrée aussi. Ouh, c'est vrai que ça fait pas mal de périodes où on a de bons engagements, mais c'est bien de les avoir. Après,
voilà,
on n'arrive pas forcément à les tenir.
Et nous, voilà, on s'est engagé à continuer à faire quelques émissions. Quoi.
Ah oui, et ça par contre, moi j'y suis à fond, donc il n'y a aucun souci pour ça. Je vais tenir bon dans cet engagement, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça.
Excepté si l'antenne tombe là de la fenêtre. Hein.
Ce serait embêtant quand même, hein. Là ce serait la faute à pas de chance.
Ah ben écoute, peut-être que le mois prochain, il va falloir que tu tiennes l'antenne.
Ouais, non, je ne suis quand même pas sportive à ce point-là.
Alors, rentrons dans le vif du sujet, tu vas nous donner un peu quelques clés, forcément.
Hein. Exactement, exactement. Alors pardon, excusez-moi. Donc c'est vrai qu'au mois de septembre, comme on le disait, on a tendance à redémarrer quelque chose. Hein. On a eu un élan et un rythme un peu plus léger, un petit peu plus doux au rythme de l'été, avec le soleil, les journées à rallonge, la farniente, la dolce vita et tout ce que vous voulez. Et en général, à la rentrée, eh ben on est porté par un nouvel élan rempli de plein de bonnes idées, de plein de bonnes volontés. Ça va être un petit peu la période, bah du coup, des nouvelles inscriptions à la salle de sport ou à d'autres activités artistique, ça va être la période où on a envie de, où on retrouve en tout cas l'envie de bien faire les choses, hein, de s'appliquer, comme par exemple de, pour les étudiants, de bien écrire ses devoirs sur son agenda correctement, sans une écriture de chat. Ça va être de faire des jolies couleurs dans les lettres qu'on peut écrire, etc. Ça va être aussi de vouloir reprendre soin de soi avant l'arrivée de l'hiver pour se réconforter aussi. Et puis c'est l'engagement finalement de faire différent par rapport à ce premier fameux de l'an qu'on a tendance à donner énormément d'importance et qui finalement s'effrite au bout de quelques jours ou de quelques semaines ou tout au plus de quelques mois, mais ça ne dure jamais en tout cas. Alors finalement, justement, si au premier de l'an, on a tendance à se donner des bonnes résolutions mais qu'on n'arrive pas à les tenir, j'ai envie de dire que c'est un petit peu illusoire de penser qu'en s'y prenant de la même manière, eh ben, on va obtenir des résultats différents, n'est-ce pas? C'est un petit peu ce que disait d'ailleurs Albert Einstein, hein. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Bon, bah, du coup, moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de réussir à faire clairement la différence, à avoir des petites astuces à mettre en pratique pour réussir à tenir bon dans ses engagements, à connaître un petit peu le bon déroulé des engagements on va dire facile à tenir, et puis de réussir à faire en sorte que cette fois-ci ce soit différent, que cette fois-ci on soit fier de soi et qu'on se sente actif et acteur dans son engagement en tout sens.
Allez, on va croiser les doigts, toucher du bois en même temps et puis
voilà,
se lancer
à fond
dans une bonne lignée.
Exactement. Alors ça va commencer par faire des bons choix. Déjà, c'est le tout départ, le vraiment point de départ à toute chose. Tout va commencer par là. Pourquoi ? Parce que bah, des idées, il y en a plein, forcément. Des bonnes résolutions aussi. Mais est-ce que ce sont les bonnes ? Est-ce qu'elles me correspondent réellement ? Est-ce que j'ai réellement envie de les tenir ? Ce sont des questions qui vont être indispensables à se poser pour réussir à tenir bon. Il est facile dans son quotidien de se laisser rattraper par toutes les obligations. Hein. Finalement, on a beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités à tenir, que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale ou sociale. On a toujours des... C'est rythmé, hein. C'est très rythmé par les contraintes et les responsabilités. On a bon nombre de casquettes aussi. Du coup, on doit jongler entre elles et du coup, ça finit par nous épuiser. On finit aussi par se disperser. Alors, nos actions deviennent vite fait, mal fait. Et du coup, ça engendre une vision négative sur soi aussi et sur la vie en général, parce que du coup on peut vite se retrouver découragé, frustré, insatisfait, et du coup on en a marre, quoi. Alors pourquoi faire des efforts, finalement j'y arriverai jamais, j'en suis pas capable, tout se ligue contre moi, etc. Alors moi j'ai envie de vous proposer de voir les choses autrement. Si au lieu de rajouter encore et toujours des obligations, des contraintes dans notre planning qui est déjà bien chargé, pour pas à la suite du coup manquer de temps, manquer d'énergie, éventuellement d'argent aussi, et ne pas tenir ce pour quoi nous nous sommes initialement engagés, et donc ressentir cette fameuse insatisfaction, frustration, peut-être même déception aussi, parfois même de la colère envers soi ou envers les autres, hein. Est-ce qu'il ne serait pas préférable finalement de faire le choix de ce que nous voulons vraiment, de ce que nous voulons vraiment composer notre quotidien ? De peut-être choisir de faire moins, mais de meilleure qualité. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux vacances, où finalement tu en as pris un petit peu moins que de coutume, mais qu'elles ont été c'est de vrai. Bonne qualité.
Ah oui, c'est vrai.
Eh bien là, je vous invite vraiment à faire la même chose, de peut-être prévoir moins d'engagements, mais d'être sûr d'être dans la qualité de chacun de ces engagements, qui nous correspondent, qui soient à notre image, qui correspondent à nos valeurs, à nos principes, à nos besoins, à ce qui nous convient, pour pouvoir les tenir aussi. Parce que à trop en avoir, on va se disperser, on va s'épuiser, c'est inévitable, c'est humain, j'ai envie de dire. Hein. C'est même pas que parce que c'est insurmontable et que vous n'êtes pas capable, absolument pas, c'est juste que trop, c'est trop au bout d'un moment.
Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs et l'appliquer dans le travail finalement aussi. En plus des vacances, je vais en faire moins au boulot aussi. Hein.
Exactement,
c'est bon.
Hein, faire le juste minimum, ce qu'il faut. Hein, on peut voir ça comme ça.
Exactement, puisque là aussi, on peut fournir quelque chose de qualité.
Exactement.
De au ce lieu faux, de surcharger ouais. le planning. Mais par contre, je serai là tous les troisièmes jeudis du mois.
Ah ça c'est bien, ça voilà. C'est une très bonne initiative. J'adhère absolument, je serai là aussi. Mais c'est vrai que même dans la notion du travail, le fait de toujours, certaines personnes, après c'est pas tout le monde hein, forcément, mais certaines personnes veulent vraiment en faire beaucoup, beaucoup, même parfois plus que ce qui est nécessaire, et du coup finissent par s'épuiser à la tâche, par se dévaloriser aussi parce qu'il n'y a pas forcément la reconnaissance qui est derrière. Et ça va accentuer hein, le coup de massue et le découragement parce que on se dit et en plus je fais tout ça et pourquoi finalement. Donc je vous invite vraiment à vous focaliser sur l'aspect de la qualité. On va privilégier la qualité, l'investissement, l'efficacité, la productivité. Hein, il y a la fameuse différence entre être occupé et être productif. Je m'éloigne un petit peu, mais pas tant que ça finalement, parce que ça reste un peu dans la même idée de se focaliser sur l'essentiel. Voilà, c'est vraiment une invitation à aller sur l'essentiel. Donc finalement, si nous faisions le choix de ne faire que des activités et des actions qui sont exclusivement en accord avec notre moi profond, hein, par exemple. Alors quand je dis être en accord, je vais parler de connexion émotionnelle et qui plus est positive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un lien émotionnel positif qui va être établi avec une personne, avec une situation ou avec une envie d'une action à réaliser, mon implication et ma motivation vont se trouver transformées. Porter, vraiment booster, hein, vraiment transcender. Donc du coup, je vous invite à vous focaliser sur quelque chose qui vous corresponde vraiment, avec les valeurs comme on le disait, les principes, les besoins, pour pouvoir justement être dans cette fameuse différence au niveau des situations où j'ai beaucoup de choses à faire mais qui ne me correspondent pas forcément et donc j'arrive pas à tenir mes engagements, et celles où j'en fais un peu moins, je me focalise sur l'essentiel, et là du coup je me trouve complètement alignée avec moi, ce que je veux et ce que je veux devenir aussi, parce que souvent des objectifs, des actions, c'est ce que je veux devenir. Et ça va inciter à poser la première pierre de la fameuse fondation, on va dire, pour tenir ses engagements. Donc réussir à faire les bons choix, des choix qui nous correspondent pleinement. Donc du coup, pour vous, par quoi ça passerait finalement ? Et n'hésitez pas à faire toute une liste par écrit de tout ce par quoi ça passerait, de réussir à faire des choix et à prendre des initiatives, des objectifs qui sont pleinement pour vous, en accord avec vous.
Et ça, tu le dis souvent dans chaque émission, c'est bien de noter, en
absolument.
Fait, d'avoir toujours quelque chose d'écrit en fait.
Ouais, une
déjà,
trace
on a l'impression d'acter,
exactement.
De planifier la chose, d'avoir
absolument.
Une vision concrète de la chose avant de les faire.
Inconsciemment, le cerveau en fait, il se voit à l'action quand il est en train de le noter. Quand il voit voilà le fait qu'on prenne le crayon, qu'on écrive, c'est une action. Donc ça veut dire que je me mets déjà à l'action. Donc c'est passer un premier pas finalement pour l'inconscient. En plus, le fait de l'écrire, c'est s'efforcer à trouver les mots justes parce que quand ça reste dans la tête, j'ai envie de dire que c'est un peu abstrait, on a tendance à regarder en diagonale parce que nous on sait grosso modo ce que l'on veut dire, donc c'est pas la peine de trouver les mots justes. Alors que finalement, quand on est en train de l'écrire, je vais m'efforcer à trouver la meilleure formulation pour que ce soit le plus juste possible, ou même de le dire à quelqu'un aussi, hein. Ça va être s'efforcer de penser à ce qu'on a envie finalement de dire, de poser comme objectif ou comme action. Donc c'est vrai que de le garder, ça va apporter tout ça, ça va apporter aussi la fameuse trace écrite qui va me permettre de me rappeler, de me ramener en fait à la réalité et de me dire ah oui c'est vrai, voilà, ça c'est ce que je m'étais indiqué, c'est vrai que ça pourrait être bien de pouvoir l'initier, alors comment je vais m'y prendre, ou alors aussi dans les moments de découragement, parce que nous sommes des êtres humains et que les yo-yo ça arrive à tout le monde, faut pas se leurrer, et même à moi, eh bien ça permet de se rappeler que oui non c'est bon, c'est cet objectif là que je vise. Je tiens bon, on va y arriver, je me raccroche à ça, c'est pas dans la tête et je le mets de côté. C'est tellement facile quand c'est dans la tête de mettre de côté, d'oublier, de reporter. Tandis que quand c'est écrit, il y a comme une sorte d'engagement qui se fait déjà, hein. Ça peut paraître bête, mais quelque part c'est très symbolique et l'inconscient fonctionne beaucoup au symbolique. Il n'a pas cette facilité à finalement à comprendre les sous-entendus. Il a besoin de quelque chose vraiment d'acté. Et donc là, le fait d'écrire, on est dans de l'action. Donc pour lui, il se met en action.
C'est gravé dans le marbre. On peut avoir une petite ardoise aussi d'ailleurs.
Absolument, peu importe la manière hein, que vous le mettez en place. Il y en a aussi qui utilisent ce qu'on appelle en anglais le vision board, ou sinon le tableau des visualisations, où finalement, bon ça c'est pour des personnes qui aiment bien aussi un peu la créativité, on va prendre une grande feuille et on va s'amuser à écrire ou à dessiner ou à coller des images sur des objectifs qu'on aimerait avoir sur un certain jusqu'à une certaine échéance en fait, parce que ça on en reparlera après, mais l'échéance est très importante. Et en fait, on va accrocher ce tableau-là sur un espace qu'on a tendance à rencontrer régulièrement. Donc ça peut être dans la cuisine, sur son bureau, sur la porte des toilettes aussi, parce qu'on y passe du temps quand même. Donc finalement, voilà, ce que je déconseille de faire, c'est de le mettre qu'à un seul endroit. Ça peut être pas mal d'en avoir plusieurs. Ça peut être dans la salle de bain aussi, pour dès le matin, quand on se prépare, on fait face à ses objectifs. Mais c'est vrai que peu importe finalement votre support, que ce soit une ardoise, que ce soit une photo, que ce soit un vision board avec plein de couleurs, plein d'images, plein de mots, ou juste une liste de tout ce que vous souhaiteriez avoir avant telle date, ben ça, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mmh. Et je crois que d'ailleurs, c'était le créateur d'une grande société... je crois que c'était par rapport à Amazon. Il y avait une photo de lui sur son petit bureau à la maison, vraiment tout serré, avec plein de papiers sur son bureau. Et au-dessus, une phrase qui indiquait, alors je sais plus exactement, mais c'était grosso modo, un jour, ça deviendra mondial ou international. Et en fait, il la regardait tous les jours. Mmh. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est connu dans toute la planète, quoi. Mmh. Donc finalement, ça porte ses fruits.
C'est vrai.
Donc en fait, finalement, après, la deuxième étape, ça va être de savoir... Pourquoi ? Pourquoi on s'engage à cette action ? Pourquoi est-ce qu'on décide de réaliser cet engagement ? Alors, inévitablement, j'ai envie de dire, faire les bons choix, ça sous-entend de déterminer, du coup, pourquoi nous faisons certaines activités ou actions et pas d'autres. Donc, on va se poser des questions. Parce que moi, j'aime bien quand on se pose des questions. C'est important. Quelle est notre motivation initiale ? Qu'avons-nous à gagner à réaliser cette action ? Quel est notre intérêt personnel ? Alors même s'il est question du domaine professionnel, il est important d'en tirer profit pour soi, que ça nous fasse du bien à soi. Qu'est-ce que cela va concrètement m'apporter aussi, hein ? Il y a aussi la notion de résultat qui est à considérer dans la réflexion du pourquoi. On l'a abordé un peu avec la question de l'intérêt de s'y mettre et de ce que l'on gagnera à la clé, mais c'est pas tout. En fait, il est primordial de s'interroger sur les résultats concrets que je compte obtenir pour pouvoir palper concrètement la réussite de l'action que j'aurai entreprise au préalable, en fait. Hein. Donc, par conséquent, on pourrait éventuellement se poser d'autres questions avec comment vais-je pouvoir mesurer les résultats de mon action, comment vais-je pouvoir les constater, qu'est-ce qui va m'indiquer que j'aurai atteint mon objectif à tel moment. C'est un peu une invitation à prendre conscience de ces résultats, c'est un peu une invitation à pouvoir les considérer, les palper, comme je le disais, pour aussi me rendre compte des efforts que j'ai fournis et obtenir une récompense par rapport à toute cette persévérance dont j'aurais fait preuve. D'où l'importance de pouvoir identifier clairement ce qui va me permettre d'affirmer que mon objectif initial est officiellement atteint.
Mais là, tu parles du domaine personnel et professionnel, ou les deux ?
Ah, les deux. Ça vaut pour l'un ou pour l'autre, en fait. Peu importe. L'objectif, c'est de... Quand je parlais un petit peu de l'aspect professionnel, c'est parce qu'on peut se poser la question, bon, on me donne une tâche à faire, une mission à accomplir. Me poser la question, quel est mon intérêt personnel là-dedans ? On peut se dire qu'il n'y en a pas. Mais si, en fait, il faut réussir à trouver quelque chose qui puisse nous apporter, en réalisant cette fameuse mission, qu'elle ne soit pas vaine, qu'elle ne soit pas uniquement voué à l'entreprise, à la hiérarchie, etc. Mais c'est important de réussir à trouver, moi, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Peut-être la satisfaction d'être allé au bout de quelque chose que l'on m'a confié, de peut-être me dépasser en termes de capacité, de compétences. Ça va être aussi peut-être de me dire, j'ai été capable de faire ça sur ma vie professionnelle, je peux le calquer sur ma vie perso. Enfin, voilà, ça va être un petit peu dans cet ordre-là. Réussir à trouver un intérêt, peut-être que je vais recevoir vraiment beaucoup de joie, je vais pouvoir... en parler autour de moi, je vais pouvoir m'accorder une récompense particulière aussi. Enfin voilà, trouver quelque chose qui vous donne envie. En fait, c'est important, cette fameuse carotte aussi, hein, de se dire que voilà, si je fais cette chose, c'est pas pour rien, c'est pour moi, c'est principalement pour moi, que ce soit la vie privée, la vie professionnelle ou la vie familiale et sociale, c'est pour moi. Par exemple, un objectif, quelqu'un qui a peut-être du mal un petit peu à aller faire des courses pour son foyer, qui a tendance à facilement se laisser déborder et puis se retrouve sans rien dans le frigo, etc. Le fait de se donner comme objectif, je vais aller faire mes courses une fois par semaine ou une fois tous les 3-4 jours, par exemple, mais que c'est difficile pour lui de se dégager du temps parce qu'il déteste faire les courses, c'est pas agréable, même que ce soit sur le drive ou que ce soit en réel, enfin pas, il a pas envie. Eh ben, l'objectif, l'intérêt personnel qu'il va pouvoir tirer, dont il va pouvoir tirer profit malgré cette contrainte et cette obligation que représente de faire les courses, eh bien, ce sera de se sentir organisé et de se vider de l'espace dans sa tête aussi, de l'énergie, puisqu'il va prendre un temps pour y réfléchir une fois par semaine, par exemple, et une fois que ce sera fait, c'est bon, la semaine passe et je n'ai plus à y penser.
Ça serait bien dans le futur de faire des courses par ou télépathie ou téléportation.
Oh là là, mais ça, ce serait génial. Hein. Pour plein de choses, ce serait génial.
C'est toujours
ça.
Une corvée, ça, pour beaucoup de gens. Hein.
Exactement. Mais encore une fois, voilà, la télépathie, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend dans la tête. Dans la tête, j'ai pas besoin de trop y penser. Je sais ce que je veux, grosso modo, je regarde en diagonale. Mmh. Donc, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec l'aspect du « c'est important d'écrire, de poser, ça prend du temps, mais ça nous permet justement de concrétiser les choses. De la même manière que pour les courses, je sais que je dois y aller, mais si je le marque dans mon agenda tous les jours, ce sera le jeudi ou le vendredi par exemple que je compte y aller, de telle heure à telle heure, bah en fait finalement c'est un rendez-vous que je me donne et c'est pas que dans ma tête, parce que dans ma tête je me donne le droit de repousser bizarrement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant de savoir pourquoi est-ce que je m'engage à faire cette action là.
Très bien. Et savoir pourquoi c'est fait, savoir pour qui peut-être ?
Eh ben oui, tout à fait, savoir pour qui, parce que si, une fois qu'on a déterminé pourquoi est-ce que je le fais, c'est important aussi de déterminer pour qui est-ce que je réalise cette action ou pour qui j'ai envie de m'engager finalement. Est-ce que c'est par recommandation ? Est-ce que c'est par incitation parce que quelqu'un de son entourage ne souhaite pas être seul dans sa démarche, par exemple ? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde, parce que c'est à la mode ? Ou est-ce que c'est réellement pour moi ? Parce que je veux réellement... je le veux vraiment au fond de moi en fait, et est-ce que c'est parce que c'est une démarche absolument volontaire ? C'est complètement différent. Là par exemple pour l'illustrer, je parlerai du sport. Si c'est moi qui souhaite vraiment faire du sport et je m'engage à le faire, si ça part vraiment de moi, j'aurai plus de chances de réussir à tenir mes engagements avec tout ce qu'on a un petit peu évoqué avant, mais tout ce qu'on va évoquer aussi après. Mais ça va être aussi si finalement je fais du sport pour faire plaisir à quelqu'un, pour accompagner quelqu'un ou parce que c'est dit que c'est bien de faire du sport, ça va être compliqué pour moi de tenir bon dans cet engagement-là. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué, ça risque de... de pas marcher, forcément. Je sais pas si c'est indispensable du coup de voilà de vous le rappeler, mais sait-on jamais, toute démarche dans n'importe quel domaine dont il s'agisse, finalement, si la démarche n'est pas volontaire et personnelle, même si elle a été inspirée par quelqu'un d'autre, il n'empêche que si son application ne vient pas pleinement de moi, mais plutôt de l'autre ou pour l'autre, je risque de rencontrer des résistances qui vont me freiner et me feront sentir plutôt victime de la situation plutôt qu'acteur.
D'accord.
Donc de toute cette, dans toute situation qu'on va rencontrer, finalement on va plus être, on va plus avoir ce sentiment d'être acteur, on va plus avoir ce sentiment d'agir et de décider, on va plutôt avoir ce sentiment de subir la situation. Faut savoir que dans tout ce qu'on entreprend, il y a un objectif final, un but ultime, et que dans tout objectif qu'on doit réaliser ou qu'on souhaite réaliser, il y a forcément des difficultés. C'est ce qui va rendre d'ailleurs notre ascension bah, justement intéressante, alléchante, j'ai envie de dire, c'est de rencontrer les phases montantes et descendantes et de se dire waouh, j'ai réussi à les atteindre et malgré l'adversité j'y suis arrivée. Mais quand on fait face à l'adversité et qu'on est volontaire, c'est beaucoup plus accessible au niveau de tenir ses engagements plutôt que lorsque nous subissons la situation. Quand on est volontaire, on arrive à puiser beaucoup plus librement dans nos propres ressources. Il est beaucoup plus facile d'envisager d'aborder les choses autrement et de faire appel aussi éventuellement à son entourage ou à solliciter son environnement pour avancer. Par contre, quand on n'est pas volontaire, on a tendance à se cloisonner, à se donner des tas de mauvaises excuses, à se renfermer, et il devient de plus en plus difficile de se croire en capacité de surmonter cette adversité. Et là, on rentre dans un cercle vicieux et non pas vertueux, comme on aurait tendance à rentrer lorsque l'on est davantage volontaire et quand c'est une démarche personnelle qui vient de moi et que j'ai pleinement décidé. D'accord. Donc, pour reprendre un peu l'exemple du domaine professionnel, c'est vrai que on peut vous demander donc de réaliser une action pour le compte de l'entreprise parce que finalement vous êtes la seule personne qualifiée peut-être pour le faire. Et là, on est tout à fait en droit de se dire mais du coup, c'est pas une démarche qui est volontaire ni personnelle. Je suis tout à fait d'accord. Je peux pourtant vous certifier que vous pouvez vous approprier pleinement l'action qui est à réaliser comme si elle venait de vous. Comment ? Ben en vous donnant justement la carotte finalement, en vous posant la question, quel est mon intérêt? Qu'est-ce que je peux en retirer pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter de le réaliser? C'est ce fameux pourquoi qui va permettre de m'approprier la chose et de réussir à faire en sorte que ce soit pour moi. Pour répondre à la question du pour qui.
Sinon, ça peut vite devenir une corvée.
Absolument une corvée. Donc, du coup, on va retrouver la procrastination. Je veux pas retourner là-dedans. Je veux pas ceci. Je veux pas cela. Je le remets à plus tard, etc. Et puis aussi, j'aimerais quand même, du coup, puisqu'on parle un peu du professionnel, vous inciter à réfléchir par rapport aux engagements que vous prenez. Parce que quand on analyse ces engagements-là, il est pas rare, finalement, de remarquer que tout ce qui se rapporte au monde du professionnel est nettement moins impacté par le non-respect de ces engagements. Contrairement à tout ce qui concerne la vie privée, les loisirs, les plaisirs. C'est généralement dans le monde professionnel qu'il y a cette notion de devoir. Bon, on parlait de corvée, c'est le devoir, l'obligation de devoir réaliser quelque chose. Ça fait partie de mon travail, ça fait partie de mes missions de contrat. C'est pour ça que je ressens davantage cette obligation de le faire. Et pour avoir vu que j'ai cette notion d'obligation, je fais davantage preuve de persévérance et de respect finalement dans ce que j'entreprends, parce que professionnellement, je risque quelque chose. Alors, je risque une punition, je risque peut-être d'être mal vu, je risque peut-être de perdre de l'argent, je risque peut-être d'avoir une réprimande de la part de ma hiérarchie, peu importe. Mais en tout cas, il y a un risque si je ne le fais pas. Du coup, je préfère conserver mon poste, parce que il y a la notion de responsabilité au niveau de mon foyer, etc., par exemple. Et donc, je vais tout faire pour finalement aller jusqu'au bout de ce que l'on m'a demandé de réaliser. Par contre, dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Quel est le risque? Quelle est ma punition? Pas tant que ça, en fait, puisque les autres sont pas au courant. Donc, c'est qu'un engagement envers moi-même, sauf que je peux très bien fermer les yeux sur cet engagement. On va dire un petit peu que tout ce qui a trait à la vie personnelle, c'est comme si c'était du bonus, c'est secondaire. Alors, on va se donner le droit de repousser, de remettre à plus tard, parce que l'enjeu n'est pas aussi grand que celui d'une entreprise, par exemple, qui dépasse notre propre personne. Et il n'y a pas cette notion de risque, de punition, qui fait que j'ai une petite pression de devoir réaliser cette action-là. Donc, si je fais, tant mieux. Si je ne fais pas, tant pis. Il n'y a pas d'impact. C'est pas grave. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est ce que nous croyons ou que c'est ce que nous préférons croire, parce que je vous le rappelle, nous sommes notre propre pilier. Il y a Goethe qui disait « C'est en se prenant soi-même dans ses bras que l'on étreint le monde entier. » Si vous voulez continuer à être le pilier dans votre vie privée, pro et sociale, familiale, il faut prendre en priorité soin de vous. C'est primordial. Et ça, je ne vous le dirai jamais assez. C'est pourquoi je me permets de vous poser cette question. Quelle place, finalement, choisissez-vous de vous donner dans votre vie? Et pourquoi considérer aussi différemment votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Est-ce que ça en vaut réellement le coup?
Il est souvent guest star, Goethe, je remarquais. Dans
tout à fait, mais il faut dire que cette citation, je la trouve très révélatrice. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup de quand on pense à soi, quand on est dans le bien-être, quand on pense d'abord à se reposer avant d'aider les autres, etc. Oh là là, qu'est-ce que c'est égoïste. Cette personne, elle pense qu'à elle, mais pas du tout. Comment vous voulez réussir à accomplir quelque chose si vous-même, vous n'êtes pas en état d'y arriver. Et pourquoi finalement là, par rapport à ce challenge bien-être qu'on se propose à tenir ses engagements, pourquoi m'efforcer, donner toute mon énergie à tenir uniquement mes engagements professionnels et ne pas me permettre d'avoir aussi ce bénéfice et ce plaisir et cette satisfaction à tenir mes engagements dans ma vie privée aussi? Finalement, ce serait pourtant boostant pour moi et ça pourrait même peut-être me permettre d'évoluer dans ma vie professionnelle si vous en apportez un grand intérêt. Mais en tout cas, ça me fera énormément du bien de réussir aussi à prendre des engagements envers moi qui me font du bien à moi pour pouvoir après rayonner, diffuser tout autour de moi et faire en sorte de tenir d'autres engagements qui ne dépendront pas que de moi mais aussi de mon environnement.
Très bien. C'est limpide tout ça.
Ça va ?
Ah ouais. Oui, parfait.
Bon, parfait.
Vous avez pris des notes ?
J'espère, hein. C'est important
voilà,
de noter.
Justement. Allez, on fait une pause musicale ?
Eh bien oui, c'est parti pour la pause musicale avant de parler d'une méthode concrète que vous avez peut-être entendue dans votre parcours professionnel ou personnel.
C'est parti avec Annie DiFranco, on se retrouve dans quelques instants.
Song is inside, finger painting dark swirls again.
Oh ben, nous a miné le moral celle-ci, hein. Annie DiFranco, mais c'était beau quand même. Old, old song. Et vous êtes sur Fréquence Mistral, deuxième partie de votre émission et le retour de Claire et Elisabeth pour l'instant bien-être tous les troisièmes jeudis du mois à partir de 9h10 sur notre antenne. Et si vous nous rejoignez, eh bien nous parlions des engagements hein, que vous pouvez prendre pour cette rentrée 2019. Les bonnes résolutions de rentrée s'existent aussi et nous en sommes à la phase 4, appliquer la méthode SMART.
Tout à fait.
Voilà, moi je croyais que c'était une voiture, ce n'est pas que ça.
Ce n'est pas que ça, non, tout à fait. Mais bon, c'est quand même une méthode à conduire finalement, hein, si on veut rester sur le domaine de l'automobile. Alors en fait, même si les questions alors d'activité sportive, artistique, même si les questions d'action à mettre en place dans sa vie privée, même si, comme on l'a dit souvent, elle est considérée comme secondaire hein, par rapport à notre vie professionnelle, eh bien, tout souhait, toute envie, tout engagement que nous prenons est à la base un objectif. Seulement, bah, qu'est-ce que c'est qu'un objectif ? Donc déjà, c'est important de l'identifier. Un objectif, c'est un but à atteindre. C'est un point que l'on vise à un moment donné. Et pour y parvenir, en tenant bon dans ces objectifs, nous allons appliquer donc la fameuse méthode SMART, introduite par Peter Drucker. Cette méthode, elle représente grosso modo une feuille de route à tenir à travers 5 critères qui se regroupe sous son acronyme. Alors pour commencer avec la lettre S, on va avoir en intitulé la simplicité et la spécificité. D'accord ? Il faut que l'objectif soit simple et spécifique. La formulation de votre objectif doit être absolument simple, autrement dit, compréhensible par tout le monde, toutes et tous, même un enfant de 5 ou 6 ans doit être capable de comprendre votre objectif en faisant preuve donc de clarté et de précision. Pour cela, il faut bien penser aussi à parler à la première personne du sujet et au présent. C'est pas du conditionnel, je souhaiterais, je voudrais, nananana. C'est actuel, je souhaite, je veux. D'accord ? Et on peut prendre par exemple l'idée de parler, d'apprendre une nouvelle langue étrangère par exemple. Donc ce sera je souhaite parler telle langue étrangère. Ensuite, il faut que cet objectif puisse être mesurable. On en a un petit peu parlé tout à l'heure lorsque l'on parlait de l'intérêt, de comment je pourrais palper cette réussite. Il est primordial. Non, c'est bon, hein.
C'est vrai que c'est dur le matin.
Mais j'ai pas eu de café, c'est pour ça.
C'est pour ça, oui. On n'offre même plus le café.
Non, mais il y a un gros laisser-aller, je tenais à le dire, ouais. Effectivement.
Enfin, au début, voilà, c'est acquis. Il y avait des pains au chocolat.
Exactement. Maintenant, il n'y a plus rien.
Voilà, donc on va adresser objectif. Une petite lettre à la direction. Là. Un petit budget là pour tout ça.
C'est gentil, merci. Donc en fait, il est primordial que nous puissions identifier le moment où l'objectif sera atteint. Hein, c'est ce qui va nous motiver aussi. Et donc pour ça, il faut le rendre mesurable. Donc le baser sur des faits qui vont être concrets en fait hein, et qui vont nous permettre de suivre notre avancement tout au long de sa réalisation. Donc pour le rendre mesurable, cet objectif, on va rajouter soit une quantité, soit une fréquence, soit un coût. Ça dépend un petit peu l'objectif initial que l'on se donne. Par exemple, en reprenant l'idée d'apprendre une nouvelle langue, ce sera « j'apprendrai telle langue le lundi, le mercredi, le vendredi de chaque semaine ». Là, je donne une fréquence, là, je donne un rythme et je donne une quantité. D'accord ? Ainsi, nous devenons clairement acteurs. Je choisis, je décide de mettre en place un plan d'action qui va me permettre d'atteindre cet objectif initial qui est de maîtriser cette fameuse langue étrangère que je vise. Donc, parler une langue étrangère reste quand même assez vaste, on va dire. C'est une représentation assez abstraite. Qu'est-ce que c'est que parler une langue étrangère? Est-ce que c'est juste bafouiller deux, trois petites expressions qui vont nous permettre, voilà, d'échanger de façon touristique avec les personnes qui parlent cette langue-là? Ou est-ce que c'est avoir vraiment une conversation beaucoup plus limite philosophique, hein, on peut dire, par exemple? C'est vraiment très nuancé. Donc, il est important d'indiquer finalement clairement que nous allons travailler à raison de 3 fois par semaine, tel et tel jour. Ça devient déjà plus concret et nous pouvons nous le représenter. Si je dois le faire pendant 6 mois ou pendant 3 mois, je n'obtiendrai pas le même résultat. Et justement, en parlant de la durée, on va parler de l'aspect donc du A de la méthode SMART, qui est ambitieux, accessible, atteignable. Un bon objectif doit impérativement donner envie. Si l'objectif est trop facile, nous ne trouverons pas de motivation. S'il est trop difficile, on va se décourager. Alors, avant d'exiger d'être parfaitement bilingue, par exemple, hein, eh bien, envisageons un niveau intermédiaire lié à cet apprentissage de la langue étrangère. Au lieu de viser le niveau B2, qui serait un niveau du coup limite expert pour des personnes qui sont dans une voie professionnelle et qui veulent aller à l'étranger pour travailler, visons d'abord le niveau A2, qui va nous permettre d'avoir un niveau touristique, mais qui est suffisant pour pouvoir parler d'autre chose que juste où est-ce que je peux trouver tel hôtel, tel restaurant, etc.
Très bien.
Voilà. Ensuite, on va avoir le R de réaliste. Pour cela, prenons en considération tout notre environnement, notre contexte économique, social, familial et professionnel qui va contribuer à l'atteinte de notre objectif ou à son non-aboutissement. Il est important de vérifier la compatibilité de ce contexte avec notre objectif. Si on se dit que nous allons apprendre telle langue étrangère tous les lundis, mercredis et vendredis, et que par exemple les cours n'ont lieu que le mardi et le jeudi, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est important de prendre en considération des choses qui sont réalistes et qui soient conformes dans le sens réaliste, qui soient conformes à la réalité. De la même manière, si je veux des cours spécifiques, mais que du coup je n'en connais et que je les veux par exemple en réel, donc c'est-à-dire en face à face, mais que dans l'endroit où je suis il n'y a aucun professeur de cette langue-là, je vais être un petit peu embêtée. Donc ça va nous permettre aussi de réfléchir, de moduler, d'adapter notre objectif et les moyens qu'on va mettre en œuvre pour réussir à l'atteindre. Et enfin, il y a cette dimension de temporalité avec le T de SMART. On va déterminer une échéance. Alors, il est important d'avoir une date de début et une date de fin, une date limite, une date butoir. C'est ce qui va nous permettre de contrôler l'avancement au fur et à mesure de notre plan d'action pour atteindre l'objectif initial. Ça va nous permettre de donner un rythme aussi à notre plan d'action et de ressentir un minimum de pression suffisante pour avancer avec la date butoir qui arrive. Donc, pour reprendre notre exemple de parler une langue étrangère, on peut très bien dire « je serai capable ou je vise d'être capable de converser en telle langue sur la vie quotidienne d'ici le 1er juillet 2020. À raison de 3 fois par semaine, je vais apprendre cette langue avec des cours individuels ou collectifs. » Là, voilà. Après, c'est à étayer et vous allez pouvoir approfondir en termes de plan d'action pour votre objectif à tenir et à réaliser et à atteindre pleinement.
Et en japonais, en plus.
Oh là là, alors là c'est un bon engagement.
La matinale sera en japonais, d'ailleurs.
Ouh, on va prendre un interprète, hein. Donc finalement, en bref, qu'est-ce qui est important de faire pour réussir à tenir bon dans ses engagements? Ça va être de formuler un objectif qui va répondre au procédé SMART. Donc je vous le rappelle, que l'objectif soit simple, soit spécifique, que l'objectif puisse être mesurable, qu'il puisse être ambitieux, accessible, atteignable, réaliste et temporel. Ensuite, ça va être identifier son intérêt personnel, le gain finalement que cet objectif va nous apporter concrètement dans notre quotidien. Ça peut passer par qu'est-ce que ça va changer, comment est-ce que je vais me sentir, comment est-ce que je vais être, quelles incidences ça va engendrer dans ma vie quotidienne, dans mon environnement et en moi. Ensuite, ça va être de planifier un plan d'action détaillé qui va correspondre, hein, à cette fameuse méthode SMART, un plan d'action qui va être détaillé et qui va me permettre aussi de m'accorder une récompense à chaque phase que je vais considérer comme une étape dans mon parcours. D'accord. Donc ça nous permet un petit peu de compartimenter l'ensemble des marches des escaliers que je vais monter pour arriver à l'étage où je souhaite monter. Et puis finalement, ça va être aussi le petit conseil supplémentaire de ne pas se disperser en se fixant un grand nombre d'objectifs. Un à la fois pour commencer, c'est largement suffisant. Jusqu'à 3 projets en parallèle, ça peut être bien. Au-delà, on risque l'éparpillement, la charge mentale et le découragement. Donc on va éviter de se mettre en position de difficulté.
Oui, ce qu'on disait au début, pas trop surcharger pour finalement ne pas réaliser les choses.
Exactement,
au final.
Tout à fait. Par contre, rien n'empêche d'établir une petite liste à côté avec tout ce qu'on aimerait à un moment donné à atteindre comme objectif. Et puis, lorsqu'on aura réussi à atteindre celui sur lequel on s'est engagé, eh bien, on va aller piocher dans cette liste en disant très bien, maintenant, je passe à quoi. Et ça peut être justement stimulant aussi de se dire, bah, j'ai toute une liste d'objectifs et de projets, de rêves finalement à atteindre. Donc, voilà, je vais m'y mettre à partir de maintenant. Donc voilà, je pense que vous êtes maintenant en pleine possession de quelques pistes pour tenir bon dans vos bonnes résolutions et dans vos engagements, peu importe le domaine de vie qui est concerné. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à.
Bon, tu nous as donné du boulot encore.
C'est ça, tout à fait, mais c'est important. J'ai pas envie que vous vous ennuyiez en fait.
Oui, on est bien occupé après.
Voilà.
Bon, écoutez, vous faites ça, vous faites ce challenge et puis vous voyez un peu on va dire courant de la saison là.
Tout à fait, courant de la saison, ça peut être pas mal voir un peu l'avancée.
Voilà, au niveau temporalité justement, on pourrait là aussi donner une petite deadline jusqu'à Noël par exemple.
Exactement, tout à fait. La fin d'année est tout à fait propice aussi pour pouvoir se dire au bout d'un moment, bah voilà, comment est-ce que j'aimerais terminer l'année, sur quelle note j'aimerais réussir à finir l'année, et si vous réussissez à tenir ces engagements-là à l'aide de ces quelques pistes de réflexion, eh ben alors là, vous aurez de quoi avoir du carburant pour l'année prochaine, l'année 2020, où vous ne pourrez que calquer ce que vous avez appliqué en fin d'année. Et ça, c'est très stimulant, très boostant, très porteur, et ça peut vous donner de sacrées ailes.
Et voilà, et les ailes, vous les aurez en fin d'année. Et on reviendra, nous aussi.
Tout à fait, aux nouvelles.
Ben voilà, ce sera courant octobre, troisième jeudi du mois.
Exactement.
Est-ce que j'ai un petit calendrier qui traîne quelque part par là?
Pour donner directement le rendez-vous?
Allez, bim bam, jeudi 3, jeudi 10, jeudi 17.
Jeudi 17, juste avant les vacances scolaires, tiens
voilà,
donc.
Jeudi 17 octobre.
Parfait.
Pour la prochaine émission de l'Instant Bien-être. D'ailleurs, que vous allez retrouver, et si vous avez loupé le début, le milieu et quasiment la fin, eh bien, dans son intégralité sur le site de Fréquence Mistral. Merci Claire-Elisabeth.
Merci infiniment.
À bientôt. Peut-être une actualité à signaler au fait.
Oui, effectivement. Bah oui, pour en profiter un petit peu, bah, dimanche, il y a le salon des arts énergétiques et du bien-être avec, organisé par l'espace évolutif sur Chorges, qui sera ouvert au public de 10h à 18h. Vous aurez grand nombre d'exposants. Je crois que là, cette année, il y en aura une trentaine. Dans la salle polyvalente du Boulot de Rome, juste à côté de la salle des fêtes. Et il y aura des conférences, il y aura des animations avec des ateliers, et puis il y aura de nombreux exposants aussi pour répondre à vos besoins du bien-être, tout ce qui pourrait vous soulager, vous permettre d'avancer dans votre vie, que ce soit d'un point de vue physique, si vous rencontrez des difficultés avec des douleurs, des maladies, mais aussi d'un point de vue mental, comme par exemple avec mon travail à moi. Je serai ravie d'échanger avec vous à cette occasion. Vous pourrez également trouver du coup le fameux livre « 28 jours pour positiver » sur le stand que je mettrai du coup en vente, et puis vous aurez toute la journée pour profiter et faire en sorte de vous mettre au cœur vraiment au cœur du besoin. Et rappelez-vous, c'est en se prenant soi-même que l'on est dans ses bras, que l'on étreint le monde entier.
Très bien, et c'est sur cette citation que se termine cette émission. On se retrouvera le mois prochain. Merci Claire-Elisabeth.
Merci infiniment, passez tous une bonne journée.
À bientôt.
À bientôt.